Le magazine du week-end. Oumi Diallo.
Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30 pour cette émission préparée par Léa Varin, réalisée par Nathalie Salle et à la technique Ruben Carmazine.
Monsieur Trump a publié jeudi dernier un décret intitulé « Unleashing America's Offshore Critical Minerals and Resources » dont l'objectif est de promouvoir le développement de l'exploitation minière en eau profonde. Ces minéraux sont entre autres le nickel, le cobalt et le manganèse des nodules métalliques et ils sont présents au fond des océans.
Une décision qui a immédiatement été critiquée par de nombreux scientifiques et des militants écologistes.
Plusieurs États sont lancés dans cette course. La Chine, la Russie, le Japon, l'Inde ou en Europe, la Norvège et l'Allemagne.
Certains parlent du Far West du 21e siècle. Des véhicules sous-marins sont envoyés dans les profondeurs de l'océan.
Ce qu'on appelle aussi minage en eau profonde ou deep sea mining, c'est l'idée d'aller retourner le fond des océans à plusieurs milliers de mètres de profondeur.
Dans les zones que nous explorons, il y a assez de cuivre, de nickel, de cobalt, de manganèse pour électrifier le quart de la flotte mondiale de voitures. Le monde va de plus en plus avoir besoin de ces ressources pour décarboner l'économie.
Exploiter ces ressources, mais avec quelles conséquences pour l'environnement?
En plus de ces impacts sur les écosystèmes, certains scientifiques alertent sur le fait que ça pourrait relâcher du CO2, beaucoup de CO2.
L'extraction minière controversée qui fait craindre des dégâts écologiques irréversibles. L'extraction minière des grands fonds marins est-elle économiquement viable? Quels sont les risques?
If the oceans die, we die. Si les océans meurent, nous mourrons. Vous avez sûrement reconnu sa voix. Un invité exceptionnel avec nous dans le studio 341 de Radio France. Le capitaine Paul Watson, berger des mers. L'homme qui dédie sa vie à la protection de la faune marine. Fondateur de l'ONG Sea Shepherd et cofondateur de Greenpeace. Bonjour Paul Watson.
Nice to be here.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et merci à Michel Zlotowski, notre interprète du jour. Avec nous également à distance et non moins exceptionnel, François Sarano, océanographe, plongeur professionnel, chef d'expédition et ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, rien que ça. Bonjour.
Bonjour Midialo, bonjour Paul.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour cette émission consacrée aux enjeux de l'exploitation des grands fonds marins. Dans un monde aux ressources limitées, l'humanité doit vivre avec les conséquences du toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus vite. Et comme si cela n'était pas assez, devra-t-elle demain vivre avec celle du toujours plus profond, descendre toujours plus bas pour creuser toujours plus jusqu'à franchir l'ultime frontière. Et avant de rentrer littéralement dans le fond du sujet, d'abord une question pour vous, Paul Watson. Le 17 décembre 2024, vous avez retrouvé la liberté après 5 mois de détention au Groenland. Vous vivez à Paris avec votre femme et 2 de vos enfants. La mobilisation internationale en faveur de votre libération a été massive. Et le 22 juillet, la commission de contrôle des fichiers d'Interpol a levé la notice rouge visant à votre arrestation sur demande du Japon, qui vous accuse d'être co-responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier japonais en 2010. Comment allez-vous, Paul Watson, et quel goût elle a cette liberté?
I'm doing quite well.
Ben, je vais plutôt bien.
And it was a great victory to have Interpol.
Et c'était une grande victoire.
Explain exactly what we've been saying for 10 years.
Explique ce que nous disons depuis 10 ans que c'était quelque chose de politique. Et le Japon n'a aucun droit de poursuivre qui que ce soit pour des raisons politiques. Mais le côté positif de tout cela, c'est que nous avons pu attirer l'attention sur les opérations illégales de pêche à la baleine du Japon. Et donc, cette période en prison a été une expérience très positive de ce point de vue-là.
Une question pour vous deux avant de parler chiffres, traités et enjeux géopolitiques. De nombreux Français n'ont jamais pris la mer, encore moins plongé. Certains en ont peur ou s'en désintéressent tout simplement, ça leur paraît lointain. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous y avez vu, vous, qui vous a donné envie d'y consacrer votre vie, Paul Watson?
The ocean's a life support system for this planet.
Eh bien, les océans, hein, c'est le soutien de la vie de cette planète.
We are alive because there is a healthy ecosystem.
Parce qu'il y a des écosystèmes dans la mer.
And the ocean is in serious trouble.
Et l'océan est vraiment en grave danger. Depuis 1950, on voit une diminution de 50% du phytoplancton dans les mers.
Et le phytoplancton,
ça fournit 70% de l'oxygène que nous respirons.
And one of my concerns about deep sea mining is that it has
sur l'exploitation des grands fonds, c'est qu'il y aura un impact encore plus grand sur la population du phytoplancton.
Oui, justement, on va y revenir. François Sarano, vous êtes avec nous. Même question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer votre vie aux océans?
Alors d'abord parce que c'est notre dernier territoire sauvage, c'est le dernier endroit où on peut encore rencontrer et vivre à côté d'animaux libres, indomptés, et cette rencontre est fascinante et vous le bouleverse pour toujours. Mais aussi, comme le rappelle Paul, il n'y a qu'une seule biosphère. Nous sommes de la mer, nous appartenons à elle, nous vivons grâce à elle. Il n'y a qu'une seule planète qui a de la vie, et cette vie, c'est l'océan qui lui la donne. Par conséquent, nous sommes liés à l'océan, irrémédiablement. Quoi qu'on puisse faire, nous dépendons de lui.
François Sarano, à partir de quelle profondeur commencent les grands fonds marins et quelles sont les zones que l'on connaît ?
Alors, les grands fonds marins, pour nous les humains, ça commence à partir de 200 mètres, parce qu'on peut pas plonger au-delà. Mais la plupart des fonds marins dont on va parler maintenant se situent à plusieurs milliers de mètres. La profondeur moyenne des océans, c'est 3800 mètres. Mmh. Je rappelle que la surface océanique, c'est 360 millions de kilomètres carrés. C'est par conséquent la plus grande partie de notre planète.
Oui, 70% de notre planète. Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble et comment fonctionne cet écosystème quand on sait, et je parle sous votre contrôle, que 90% de la vie sous-marine reste encore à découvrir ?
On ne connaît rien de la vie marine profonde. Vous imaginez qu'on a envoyé quelques sous-marins qui sont restés quelques heures, qui explorent quelques kilomètres carrés. C'est rien du tout. On ignore tout de ce qui s'y passe. Sauf que on sait que les animaux qui y vivent, il n'y a pas de végétaux parce qu'il n'y a pas de lumière, ont un métabolisme très lent, qu'ils se reproduisent très lentement. Certains ont une maturité sexuelle qui atteint 30 ans, 40 ans. Donc il faut qu'ils attendent 40 ans avant qu'ils se reproduisent. Tout y est lent. Et surtout, les animaux qui y vivent, je rappelle, il n'y a pas de végétaux, dépendent pour vivre de ce qui tombe de la surface. Et cet écosystème profond que nous ne connaissons pas et que nous menaçons d'exploiter, nous l'avons déjà affamé, nous l'avons déjà détruit, parce que depuis 70 ans, depuis l'explosion de la pêche industrielle et de la chasse à la baleine, eh bien, plus rien ne tombe dans les grands fonds qui va nourrir les animaux qui y vivent. C'est-à-dire que si nous allons exploiter pour les nodules polyméthaniques, les métalliques, les grands fonds, nous allons exploiter des populations animales déjà extrêmement affaiblies par la pêche qui fait que plus rien ne tombe pour les nourrir.
Et c'est d'ailleurs la transition parfaite pour rappeler les trois principes de l'écologie, la diversité, l'interdépendance des espèces dont vous venez de parler et la finitude des ressources sans quoi aucune espèce ne peut survivre, dont nous, les humains.
Tout le monde danse quand ces chants-là claquent tes doigts. Mais moi je danse pas. Tu dis que l'amour existe que le système. Mais je suis Ken. Tout le monde s'écrase, tout le monde rejoue la même scène. Mais ça ne vaut pas la peine, pas la peine. Même si tout le monde danse pour ne pas penser, on ne pense qu'à les pensées. Même quand tous ces gosses pensent à tout balancer, c'est du mineur en majorité.
Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, everybody. Everybody dance, everybody.
Tout le monde danse, Chaka Ponk sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez à bord du magazine du week-end en compagnie de Paul Watson et François Sarano. Place maintenant à cette actualité. Le 6 août, un accord de coopération a été signé entre les îles Cook et les États-Unis pour l'exploration de ces fonds marins. Les îles Cook, c'est un archipel de 15 îles situées au sud-ouest de l'océan Pacifique. C'est un territoire autonome et souverain, mais lié constitutionnellement à la Nouvelle-Zélande. Alors pour le moment, aucune exploitation commerciale n'est encore autorisée. L'accord porte officiellement uniquement sur l'exploration scientifique. Sur le papier, cet accord prévoit un développement responsable des ressources minières présentes en grande quantité dans la zone, nickel, titane, cobalt, lithium, manganèse, des métaux que l'on retrouve dans les batteries de voitures électriques, de smartphones, dans les éoliennes, les panneaux solaires ou encore les puces de nos appareils électroniques. Le problème, c'est que le document précise aussi que cette recherche scientifique est dans le but d'orienter une exploitation durable. En février, la Chine avait conclu un accord similaire avec les îles Cook. Pour Donald Trump, il s'agit d'asseoir sa présence dans le Pacifique et sécuriser l'accès à des minerais essentiels à la transition énergétique et au secteur militaire. Voilà pour les enjeux. Alors, exploiter à terme les grands fonds marins pour assurer la transition écologique, il fallait oser. Est-ce que c'est le début d'une guerre pour mettre la main sur les ressources des grands fonds marins? Selon des prévisions, le marché mondial pour les métaux pourrait atteindre les 770 milliards de dollars d'ici 2040. Paul Watson, est-ce que vous êtes inquiet?
Je suis très inquiet parce que l'écologie est beaucoup plus importante que l'économie.
Et
il y a un écosystème des fonds marins qui est très fragile.
Mais
ces nodules polymétalliques, ça a pris 250 millions d'années pour être là. C'est une ressource.
Voilà.
Et en les détruisant, on détruit tout l'écosystème de milliers d'espèces. Mais quand on les ramène à la surface, c'est plus de lui. Eh bien, on va renvoyer des déchets sur des milliers et des milliers de kilomètres carrés qui vont faire suffoquer les populations sous-marines parce qu'on enlève les créateurs d'oxygène. Ça prendra des années avant de redescendre vers le bas. Et ça va, c'est une industrie extrêmement destructrice qui ne devrait pas être encouragée d'aucune manière.
Et pourtant, François Sarano, les partisans de cette exploitation affirment qu'elle pourrait être plus propre que les mines traditionnelles. Mais selon les défenseurs de l'environnement, et on vient d'entendre le capitaine Paul Watson, l'exploitation pourrait provoquer des dégâts irréversibles, une pollution et une destruction des écosystèmes marins. Qu'en est-il exactement? Qu'en pensez-vous?
Il n'y a pas d'exploitation durable. Il faut juste être simple. Regardez une mine à ciel ouvert et vous comprendrez qu'il n'y a plus de vie. Quand on regarde les mines d'exploitation d'aluminium en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, tout est détruit, il n'y a plus que du minéral. Si nous faisons la même chose dans les grands fonds, il n'y aura plus de vie. Et j'insiste sur le fait que la vie dans les grands fonds est incroyablement plus fragile parce qu'elle se renouvelle extrêmement lentement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement que celle que l'on a dans les eaux de surface. Par conséquent, l'exploitation minière dans les grands fonds, c'est la mort. Tout à l'heure, vous disiez toujours plus loin, toujours plus loin. Oui, ici, c'est toujours plus loin dans la mort. Or, je ne veux pas, et nous ne voulons pas, avec l'association Longitude 180, offrir un monde mort à nos enfants. Voilà, l'enjeu, il est là. Jusqu'où va-t-on aller? Et est-ce que là, justement, la question va être posée, est-ce qu'il est bon d'avoir plus de voitures électriques, plus de batteries, plus de, jusqu'où va-t-on aller dans la destruction des ressources limitées de la planète? Et encore, j'emploie le mot ressources parce que visiblement, nous n'avons pas compris que nous faisons partie de ces vivants que nous considérons comme des ressources. Il faut arrêter de considérer le monde à notre service, que la vie est à notre service, que la vie n'est que ressource. Nous sommes partie de ces vivants et c'est en détruisant ces vivants que nous nous détruisons nous.
Oui, donc toujours plus loin en plus dans le greenwashing, on le voit. François Sarano, vous êtes auteur de nombreux ouvrages dont Justice pour l'étoile de mer et Vers la reconnaissance des droits de l'océan, paru cette année chez Actes Sud. Justement, le statut juridique de la mer, il est complexe, il est parfois confus. Il y a les eaux territoriales qui appartiennent aux États, ce qu'on appelle les ZEE pour zone économique exclusive. En revanche, les fonds marins appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment ce droit s'applique concrètement ?
Eh bien, aujourd'hui, patrimoine commun, ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi et c'est au plus offrant. C'est à celui qui
détruit. Donc le Far West.
C'est le Far West. Mais il faut savoir que aujourd'hui, les êtres vivants sont considérés comme des objets. Tous. Hein, et qu'ils appartiennent à celui qui les tue pour se les approprier. Mais c'est déjà une formidable injustice que de considérer le vivant autour de nous comme simplement des ressources
vous,
et des
vous
objets.
Vous parlez du statut des animaux dans le droit notamment, c'est ça, hein, comme objet meuble.
C'est ça, c'est ça. Mais parmi ces animaux qui sont considérés comme des objets, il y en a dont on se soucie, c'est les laitons, les mérous, les merlus, les langoustines, ceux qui sont économiquement intéressants. Mais les autres, tous les autres, les toiles de mer, les holothuries, les éponges, tout, ça n'existe pas, c'est rien. Et quand je dis rien, ils n'ont pas de statut, on n'a pas de considération pour eux, par conséquent, on ne pense pas à les protéger. Et il faut qu'ils aient aujourd'hui un statut pour que nous puissions, en les ayant considérés, eh bien, ajuster nos activités à leur droit d'existence. Et à ce moment-là, on se posera véritablement la question. Est-ce que ça vaut la peine d'aller exploiter les grands fonds aux dépens de la vie de ces êtres-là ? Mais aujourd'hui, on ne se pose pas la question, puisqu'ils n'ont pas de statut et qu'on ne les reconnaît pas. Donc il est important que nous changions notre droit et que nous donnions existence à ces animaux, oui, un droit d'existence, pour pouvoir réfléchir à l'expansion de nos activités. Parce qu'aujourd'hui, on ne les considère pas, donc il n'y a pas de dégâts collatéraux, et donc nous n'avons aucune mesure dans l'exploitation des ressources de la planète.
Paul Watson, concernant cette idée du droit du vivant, quelle est votre position ?
I believe that everything in nature needs to have
rights under law. La loi devrait protéger tout le monde, y compris les mers, les rivières, les lacs, les arbres. Tous les animaux devraient être protégés par la loi, parce que nous existons ici en raison de l'interdépendance de toutes ces espèces. Et chaque fois que vous enlevez une espèce, vous affaiblissez l'écosystème qui nous soutient tous. C'est dans notre propre intérêt de permettre aux autres espèces d'avoir des droits légaux.
Et dans ce contexte, hein, la France est la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde derrière les États-Unis, grâce à ses territoires ultramarins, entre autres. Son poids est donc très important. Et voici ce qu'avait déclaré le président Emmanuel Macron au sujet de l'exploitation des grands fonds marins lors de la COP27 en 2022.
Les océans doivent être ce qu'a été au fond l'espace il y a quelques années. C'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme. Et donc là aussi, sur ce sujet, nous devons tout faire pour préserver les solutions en matière climatique et la biodiversité dans nos océans. Et je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements. Et fidèle à ce que j'ai déjà dit, c'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales.
Et en plus de s'opposer à l'exploitation des grands fonds marins et de vouloir décarboner le secteur maritime avec son grand plan France Mer 2030, début juin, la France a accueilli la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. La France s'est engagée sur trois points majeurs. Un traité historique pour protéger la biodiversité en haute mer, appelé à entrer en vigueur dès 2026, dès les 60 signatures obtenues. L'appel dit de Nice pour tourner la page de la pollution plastique et un accord cadre avec l'ONU pour faire de notre territoire, une terre d'accueil des grandes décisions maritimes. Paul Watson, ce plan vous paraît-il à la hauteur des enjeux ou est-ce encore trop timide ?
La principale réalisation du comité de Nice, c'était le traité du droit en haute mer. Et ça, c'est comment le mettre en place, parce qu'il y a un manque de motivation économique et politique pour appliquer les lois dans la haute mer. Donc ça a l'air pas mal, mais sans mise en place, ça n'a aucun sens. Donc, mais ça veut dire pour moi quelque chose de bien. Quand moi j'interviens en haute mer, au moins j'aurai le soutien de ce traité international. Si on me prend devant le dans les tribunaux, je dirais, attendez, regardez ce traité. Et je suis vraiment très heureux que ce traité ait été ratifié.
Donc, une bonne avancée et en attente de mise en place concrète. François Sarano, pour vous, l'UNOC, c'est une avancée positive aussi, un signal fort, ou c'est du vent ?
Moi, je serais beaucoup plus modéré que Paul, parce que c'est pas le traité de la haute mer. D'abord, c'est juste la ratification de ce qui avait été signé en 2023 par simplement 60 pays. Donc, les autres pays ne se sentent pas contraints. Et surtout, ce n'est pas un traité de protection des espèces vivantes. C'est un traité de gestion d'exploitation. Aujourd'hui, il s'agit simplement de dire on va arrêter de faire du Far West et on va essayer de gérer correctement entre nous l'exploitation.
Mais donc c'est de pas se répartir le gâteau, c'est ça que vous nous dites ?
De se répartir le gâteau. En dehors de ça, je tiens quand même à souligner vraiment que la position de la France en matière d'interdiction de l'exploitation des grands fonds est formidable, mais sur le reste, c'est lamentable. Lamentable. Les aires marines protégées en France ne sont que des aires marines dans lesquelles on peut faire n'importe quoi. Simplement, quelques pourcentages de ce qui est dit sont réellement protégés. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Donc, pour vous, on peut vraiment faire mieux dans ce contexte. Et quelle est, selon vous, l'urgence, là, politique ?
L'urgence ? Je pense que c'est de donner des droits aux créatures marines pour nous forcer à les prendre en compte. La deuxième urgence, c'est de mettre des aires marines protégées réelles, c'est-à-dire sans exploitation. Aujourd'hui, dans les aires marines protégées, on peut encore y pêcher et même y pêcher au chalut, c'est-à-dire un engin de pêche qui détruit tout sur son passage, qui remet l'écosystème à zéro, qui chamboule tout, qui détruit tout. Donc c'est inadmissible qu'on donne à ceux où l'on pêche et que l'on saccage le titre d'air marine protégée. Il faut accorder...
Ah, alors, on a perdu la connexion. On va vous retrouver très vite, François Sarano. En plus des minerais stratégiques, les grands fonds marins contiennent des bactéries qui pourraient permettre à l'humanité de faire face à la résistance aux antibiotiques. Sans nouveaux antibiotiques, le nombre de décès par résistance aux médicaments pourrait atteindre 10 millions de personnes par an en 2050 et pourrait coûter jusqu'à 100 000 milliards de dollars selon la Banque mondiale. C'est en 1977 que les premiers organismes vivants ont été découverts lors d'une expédition dans les îles Galapagos. Ce domaine de la recherche s'appelle la benthique. C'est l'étude de la biodiversité des fonds marins. C'est passionnant et vous allez comprendre pourquoi. Direction les Açores où nous sommes en ligne avec Marjolaine Matabos, chercheuse en écologie benthique rattachée au laboratoire Environnement Profond à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire vivre cette mission d'un mois en direct. Marjolaine Matabos, je suis dans un studio de radio avec face à moi le capitaine Paul Watson et en ligne François Sarano, je vous préviens. Vous allez devoir mettre le paquet pour me donner envie de vous rejoindre. Où êtes-vous exactement et à quoi ça ressemble ?
Alors là, en ce moment, je suis sur navire de recherche l'Atalante, donc un navire océanographique de la flotte océanographique française. Donc c'est un bateau qui fait plus de 80 mètres de long. Et nous, on est au milieu du Grand Bleu, en fait, l'océan autour de nous, au milieu de l'Atlantique, effectivement, à peu près un jour des Açores. Donc on est toute une équipe, 57 à bord, pour étudier ce qu'on a à 1700 mètres sous nos pieds, en fait. Donc on est au-dessus de la dorsale médio-atlantique. Donc on étudie un champ hydrothermal, donc c'est ces environnements où on trouve des grandes cheminées de sulfure polymétallique, dont on a beaucoup entendu parler, donc juste au sommet d'un volcan. Et donc on est là, toute une équipe d'équipage, de pilotes de sous-marins. On a le sous-marin habité Nautil à bord avec nous pour aller explorer les fonds. et l'équipe de scientifiques donc pour essayer de mieux comprendre cet écosystème.
En fait. Ouais, le Grand Bleu. Et quel est l'objet justement de votre mission à bord de l'Atlante?
Alors, nous, la campagne océanographique s'appelle MOMARSAT. En fait, c'est une campagne de maintenance. On a un observatoire, donc c'est un site qui est quand même très unique et très particulier. Il a été découvert il y a 30 ans et il est unique parce qu'en fait, on a pu déployer des capteurs depuis 15 ans. En fait, on déploie des stations au fond qui nous permettent de suivre la dynamique naturelle de cet écosystème. Donc effectivement, ça a été dit, l'océan est énorme. On connaît très très peu des grands fonds. Et quand on y va, bah souvent on va aller avec une campagne à un moment donné. Et donc c'est juste une photo de ce qu'on voit et on n'a aucune idée de l'évolution, de la temporalité de ces écosystèmes. Et donc ici, c'est ce qu'on essaye de comprendre un petit peu, c'est quelle est la dynamique, comment la géologie, la tectonique, la circulation de l'eau dans la croûte va contrôler la chimie des fluides, la construction de ces cheminées et donc toute la dynamique des communautés biologiques.
Et cette photo, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'état de ces fonds marins, quelle est selon vous la plus grande menace qui pèse aujourd'hui?
Alors nous, ce qui est bien ici, c'est qu'on a plus qu'une photo, on a le film. Et on parle la plus grande menace, évidemment, c'est l'homme, hein, c'est toutes les activités humaines. Donc là, on parle de l'exploitation, c'est sûr que ça serait catastrophique si on en venait là. Mais l'océan est connecté, donc il y a aussi tout le changement global, la pollution. On n'a aucune idée de comment tous ces effets cumulés pourront impacter les écosystèmes. Et puis, on a parlé de la dépendance à la surface. Là, on va être dans un écosystème encore très particulier, puisque c'est des communautés qui se développent indépendamment de la lumière du soleil. Donc, c'est toute la chaîne alimentaire associée aux sources hydrothermales est basée sur un processus qu'on appelle la chimiosynthèse. En fait, on a des micro-organismes qui sont capables d'utiliser le fluide pour grandir et se développer. Donc, on a des communautés animales uniques, très fragiles, qui se développent au niveau de ces écosystèmes. Et nous, nos observations, en fait, avec l'observatoire, puisqu'on est très peu à avoir des données telles quelles, c'est qu'en fait, pendant longtemps, on a cru que ces sources hydrothermales, comme c'était lié à du volcanisme, à du tectonisme, que c'était très dynamique et que les communautés se réinstallaient rapidement. En fait, nous, on se rend compte que depuis 30 ans, on est face à un système relativement stable, avec des populations qui ont peu bougé, donc un système qui n'est pas capable de se remettre. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les mines à ciel ouvert, il n'y a plus de vie, ça sera la même au fond, et les animaux ne reviendront pas. Comme on l'a dit.
Et justement, alors comment vous conciliez vos recherches scientifiques et le risque d'ouvrir la voie à une exploitation possiblement, potentiellement dévastatrice?
Alors, je pense qu'on sait où sont les ressources. La recherche, je pense que on est un peu en garde-fou. Je pense on est là et la connaissance elle est belle. Après, c'est ce qu'on en fait. Les industries aujourd'hui, elles sont équipées. On sait très bien que les compagnies pétrolières, les compagnies minières, elles ont des roches pour aller au fond. Donc moi, je reste convaincue qu'avec ou sans la science, ils iront de toute façon. Donc si nous, on peut être là et apporter notre connaissance et puis essayer de limiter et conseiller et dire, surtout dire qu'on connaît pas ce qu'il y a au fond. Donc non, on peut pas. On est incapable aujourd'hui de prévoir un impact.
En tout cas, vous ne craignez pas d'être instrumentalisé? Que vos recherches soient instrumentalisées?
Non, je pense qu'il faut faire confiance à l'intégrité scientifique et aux chercheurs. Nous, notre objectif, il n'est pas là. Je pense qu'on est tous venus dans ce métier parce qu'on était amoureux de l'océan. Et nous, on est là pour la connaissance en elle-même. Après, si la connaissance peut aider à protéger les systèmes, c'est un peu notre objectif à chacun. Mais non, je pense que c'est important, mais c'est sûr. Après, c'est la question du risque d'ignorance versus le risque de la connaissance. Évidemment, je pense que la question est compliquée, mais on a la chance d'être sur un système où on a la science qui est arrivée avant l'exploitation, ce qui n'est pas le cas sur Terre, sur les continents. Donc, je pense qu'il faut essayer d'en tirer profit au maximum.
Et c'est tout ce qu'on vous souhaite et ce qu'on se souhaite à nous aussi. Merci beaucoup, Marjolaine Matabos, et bonne mission.
Merci beaucoup.
Paul Watson, combien de bateaux possède Sea Shepherd et est-ce que vous participez ou avez participé à des recherches scientifiques dans le but de protéger des océans, les océans?
How many ships are we participating in scientific research?
How many ships do you have, Sea Shepherd?
None. We don't do that.
Ah ben, on n'a aucun bateau.
We intervene against illegal
activities. On intervient contre les activités illégales. You know.
Oui, mais vous avez des bateaux, justement, pour les, avec lesquels vous intervenez.
We intervene, but we're not
on intervient, yeah, 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 mais on ne fait pas de recherche directement.
Aucune scientifique. OK.
No scientific research whatsoever.
No, there's plenty
non, pas du tout. Il y a beaucoup de groupes qui le font, et nous on ne le fait pas.
But nobody does what we do.
Mais personne ne fait ce que nous faisons, nous.
Est-ce qu'on a récupéré la connexion avec François Sarano? Oui. Alors, François Sarano, vous m'entendez?
Oui.
Oh, oui. Alors, vous avez participé à des dizaines d'expéditions et vous avez lancé plusieurs initiatives, dont la Charte internationale du plongeur responsable. Pour ceux qui nous écoutent en vacances, là, au bord de la mer, est-ce qu'il y a des bons gestes à adopter qui peuvent faire la différence?
Oui, le respect des autres, l'égard pour les autres, écouter les autres, c'est la seule chose. Mais je voudrais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure sur l'importance de la science. Aujourd'hui, nous qui voulons préserver le vivant, nous avons la charge de la preuve de la destruction des fonds marins et c'est la science qui peut nous amener par la connaissance à montrer cette preuve. S'il y avait une inversion, si les gens qui allaient exploiter les fonds marins avaient la charge de la preuve de l'innocuité de leur exploitation, les choses changeraient peut-être. Mais aujourd'hui, la science est indispensable, la recherche est indispensable, parce que c'est à nous qui, aujourd'hui, incombe de dire, attention, ces écosystèmes sont incroyablement fragiles, la vie est fragile, il est si facile de détruire et de
François
tuer.
François Sarano, pardon, je me permets, mais vous trouvez que les scientifiques sont écoutés aujourd'hui, par exemple, quand on voit les conclusions du GIEC qui sont complètement balayés par les décideurs politiques.
Oui, mais s'ils n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas là, comment dire, je vois bien cette insuffisance, je sens bien que notre association Longitude 181, aux côtés des scientifiques qui mènent ces recherches, est peu puissante. Mais si nous n'étions pas là, si nous n'étions pas les derniers garde-fous, que se passerait-il? Et il n'y aurait pas aujourd'hui d'interdiction d'exploitation des fonds marins, tout le monde s'y serait déjà lancé. Et je reviens, c'est pas simplement dans les grands fonds, c'est partout. Aujourd'hui, je m'adresse maintenant aux plongeurs qui sont dans les quelques premiers mètres de surface. La vie est fragile, elle est très fragile, nous dépendons d'elle. Les interdépendances qui nous lient à elle depuis des milliards d'années sont celles qui vont permettre à nos enfants de vivre. Et puis après ça, il y a la beauté de cet environnement. On veut offrir un monde beau, un monde vivant à nos enfants. On veut pas offrir un monde de lithium, un monde de batterie, un monde virtuel dans lequel les humains vivront dans leurs avatars. Revenez sur Terre. Et il y en a qu'une seule. Vraiment, c'est un appel fort,
on vous entend,
il n'y a
et
qu'une seule vie.
On l'entend. Paul Watson, votre avis sur ces expériences scientifiques, cette recherche scientifique dans les océans?
Je crois que la valeur pour la science est vraiment devant les tribunaux, principalement. Donc quand on essaye d'arrêter des activités destructrices, on peut utiliser la science comme un moyen pour défendre ce que nous tentons de défendre. Et les tribunaux vont plus écouter les scientifiques que les entreprises qui exploitent les fonds sous-marins. C'est ça qui fait la différence dans les tribunaux.
France Culture. Le magazine du week-end. Oumi Diallo.
Vous êtes sur France Culture, le constat est clair, il y a urgence pour sauver nos océans, mais en matière d'activisme, il y a le savoir-faire et le faire savoir. J'aimerais que l'on se penche sur la manière dont on parle d'écologie aujourd'hui, parce que vous êtes dans vos styles respectifs des maîtres dans l'art de la communication. Paul Watson, vous êtes d'ailleurs journaliste de formation, et après avoir cofondé Greenpeace et l'avoir quitté parce que vous les trouviez trop passifs, vous avez conçu Sea Shepherd comme une ONG anti-braconnage qui cible les opérations illégales sans jamais blesser personne. Et depuis, vous occupez l'espace médiatique. Alors vous savez, moi, quand j'ai annoncé à mon compagnon que j'allais vous recevoir, il m'a raconté qu'il y a quelques années, quand il a découvert le logo de Sea Shepherd avec la tête de mort, la crosse de berger et le trident de Neptune, il pensait que c'était le logo d'un groupe de rock. Est-ce que c'est voulu?
La meilleure façon de communiquer, c'est d'attirer l'attention du public. Donc nous menons des campagnes qui sont amenées à dramatiser la situation, et puis, mais on doit toujours être dans les limites de la loi et dans la limite de la pratique possible. Et depuis des années, je fais de la non-violence agressive. On n'a jamais causé aucune blessure, on n'a jamais perdu une poursuite judiciaire. C'est le plus pratique, mais le plus important, il faut attirer l'attention des médias. Et ça, c'est la meilleure forme d'éducation que nous avons dans notre société.
Et justement, à ce sujet, vous avez déclaré « J'ai très vite compris que les quatre piliers de la médiatisation sont le sexe, le scandale, la violence et la célébrité. Pour chaque campagne, il fallait exploiter ces quatre éléments. » Comment est-ce que vous avez pris conscience de cela ?
En fait, je m'en suis rendu compte en 1977, quand on a fait venir Brigitte Bardot dans le Labrador et de la faire face au bébé phoque. Ça a fait la couverture de tous les magazines du monde entier. Au cours des années, j'ai appris que c'était la façon de faire. On prend une célébrité, on rend l'histoire un peu sexy, et on exploite tous les scandales possibles de cette question-là. Et donc, chaque histoire, chaque récit doit avoir ces quatre éléments. Il y a la grande histoire, bien sûr, mais c'est ce qu'on essaie toujours d'incorporer dans ces quatre éléments.
D'ailleurs, j'imagine que vous le savez, mais c'est la photo avec laquelle elle aimerait que ce soit cette photo qui reste d'elle après sa mort. Qui résume le mieux sa vie, c'est ce qu'elle a déclaré.
Oui, tout à fait. Brigitte Bardot a contribué plus à la protection des animaux qu'elle ne l'a fait dans l'industrie du film, n'est-ce pas ? Et elle le dirait elle-même. Elle est devenue un emblème, un symbole de la compassion. Et je l'ai toujours respectée pour cela.
François Sarano, le grand public vous connaît et vous aime pour ce ton direct et émotionnel, hein, on l'entend. Et cela vous permet de sensibiliser à travers vos interventions médiatiques, mais aussi vos documentaires, des personnes d'horizons, d'âge et de milieux sociaux divers. Aujourd'hui, l'écologie est ressentie au mieux comme déconnectée et inaccessible, au pire comme punitive par une partie des Français. Comment vous l'expliquez, François Sarano ? Est-ce que le problème, c'est la méthode, selon vous ?
Les gens qui disent ça sont, eux, déconnectés. Et nous sommes déconnectés parce que nous vivons de plus en plus loin du vivant, loin des autres, dans nos villes. Et aujourd'hui, dans un monde de plus en plus virtuel, certains se réfugient même dans leurs avatars. Hein. Les jeux vidéo, hop, ils sont un autre dans d'autres mondes, les métavers. Et tout ça est complètement déconnecté de ce qui fait la vie de cette planète. Et nous, avec l'association Longitude 180, nous avons deux piliers. La recherche, nous sommes crédibles parce que nous sommes en mer, que nous étudions, que nous avons des publications scientifiques. Et puis, entraîner les gens dans la rencontre, rencontrer les autres, les yeux dans les yeux. Le vivant, ça se vit. Le vivant, ça s'apprend pas dans les livres. Le vivant, c'est quelque chose qui prend au ventre avec tous les sens.
Oui, mais François Sarano, comment aller chercher justement cette partie des Français qui n'est pas, vous voyez, le message n'arrive pas en fait chez eux.
Et oui, le message n'arrive pas. Je le sens bien, nous le sentons tous. Et le message des scientifiques n'arrive pas parce que le système éducatif, éducation nationale, nous éloigne de plus en plus du vivant. Les gens sont dans les villes, oui. Et nous essayons, par les livres, par des documentaires animaliers, par des interventions radio, de dire aux gens, écoutez les oiseaux, regardez les feuilles des arbres, regardez les insectes, reprenez contact avec le vivant. Je le sens bien que c'est difficile, mais je pense que c'est la seule voie.
Paul Watson, vous avez aussi tenté de vous faire élire maire de Vancouver en 1996 en tant que candidat du Parti Vert et vous avez terminé quatrième. Est-ce que vous pensez que l'écologie doit être partisane ? Est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif ? Ça concerne tout le monde finalement.
Je ne suis pas de gauche ou de droite. Je crois dans les règles et les lois de l'écologie. Je n'étais pas candidat à la mairie de Vancouver. Je voulais pas être maire pendant quelques années. Non. Quand vous êtes candidat, ça vous donne un forum pour communiquer. Et ça, c'était vraiment une campagne très réussie de ce point de vue-là. Et malheureusement, j'aurais presque pu gagner. J'ai eu très peur à ce moment-là.
Vous auriez eu une vie très différente.
You would have a different life.
Yeah,
but ouais.
Mais je n'ai pas vraiment pensé que ça pouvait arriver. Il y a différentes approches. La force d'un écosystème, c'est dans sa diversité. Donc, la force de tout mouvement est dans sa diversité. On peut choisir l'éducation, l'activisme, le militantisme, tout ça va dans la même direction. Il faut choisir là où vous êtes le meilleur, là où est votre passion, et se dévouer, se dédier à cela.
Paul Watson, le grand public connaît bien sûr votre combat en faveur des animaux marins, mais peu de gens savent que vous êtes aussi poète. Vous avez travaillé avec le rappeur parisien L'Hémophile sur ce titre, La folie des hommes. On l'écoute.
At point blank range, the gun did spit. A roar shook the air as his body sank slowly into the scarlet waters. This whale, this sperm, this cachalot, this savage lord of the deep abyss, slain by ignorant, black-hearted, nameless men, spineless and merciless, devoid of empathy, these killers on the sea, unmoved by the whale's distress.
Et depuis quand supporte-t-on les cris d'une pauvre mère qu'on arrache à son fils? Ils n'entendent plus que la voix du délire. Le silence est le meilleur de leurs complices. Ne pas se taire, même s'ils nous menaceront, même s'ils nous baïonneront. Et rester fiers, dans la boue nous traînerons, dans la boue nous pousserons. Nous repousserons vos tristes offensives. Quand vous frappez votre camp. Braquez sur nous, voire pour vos missiles. Ce que nous protégeons est bien plus grand. Qu'est-ce qu'il nous restera? Qu'est-ce qu'il nous restera?
Protège-moi de la folie des hommes, de petits êtres persuadés d'être très grands. Apprends-moi à garder quand le ciel...
C'est votre voix qu'on entend, Paul Watson. Est-ce que vous écrivez essentiellement en mer lors de vos traversées ou est-ce que l'inspiration vous vient partout?
J'écris grosso modo tous les jours, mais il y a des expériences en mer qui sont beaucoup plus inspirantes et qui me poussent à écrire plus de poèmes.
Vous êtes beaucoup en mer depuis votre libération?
Non, mais je le serai bientôt. On a un plan pour aller dans les océans du Sud à la fin de l'année pour confronter les grandes entreprises de pêche qui prennent 650 mètres cubes de krill hors de la mer. C'est la nourriture principale pour les poissons. Et ils ramènent ce krill pour utiliser cette protéine animale pour nourrir leurs fermes à saumon dans le Nord. Mais en plus, ce sont des gens qui sont utilisés sur ces navires vraiment avec une forme d'esclavage intolérable.
Est-ce que vous accepteriez de nous réciter un poème pour terminer cette émission, Paul Watson?
J'en ai écrit un hier, dans ce but, parce que votre sujet, c'était les opérations et l'exploitation des grands fonds marins. Donc, le voici. Il y a une traduction française, mais je ne pense pas que ça se traduise très bien. Donc, vous allez l'entendre en anglais, de la voix de Paul Watson.
Voilà, l'original.
OK. The dark, dark depths of the deep abyss. In the dark, dark depths of the deep abyss, our ignorance has finally come to this. Our greed has now exceeded common sense. Benthic diversity has no defense. Deep sea mining will bring death to the sea. On behalf of all life, we make this plea. Must the sea die for your electric car? When the ocean dies, we won't drive too far. Manganese, iron, nickel, and cobalt, locked up in Neptune's cold, deep living vault. This thriving community on the seafloor, destroyed so our greed can take more and more. We need to stop this senseless plundering spurred on by presidential blundering. I fear we will open a new frontier when this insane assault begins next year.
Merci beaucoup, Paul Watson. Alors, on mettra la traduction sur le site internet parce que le temps nous manque un peu. Merci beaucoup. Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Merci, Michel Zotowski, notre interprète. Et merci à vous, François Sarano, océanographe et plongeur professionnel. Pour ceux qui souhaitent poursuivre ce dialogue, vous serez les invités du Festival du Livre et du Documentaire Grand Bivouac à Albertville du 13 au 19 octobre prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Bonne suite de programme sur France Culture.